Merci, Monsieur Goris, pour la musique spéciale.
C'était vraiment très joli, comme d'habitude.
Bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée de fête
et aussi un très beau sabbat, non seulement hebdomadaire, mais un sabbat spécial puisqu'il tombe pendant la fête des tabernacles. J'ai beaucoup de bonjour à vous transmettre de vos frères et sœurs au Togo et au Bénin, de vos frères et sœurs au Cameroun également, qui m'ont chargé de vous transmettre leurs meilleures salutations et de vous dire qu'ils pensent à nous tous ici en France pour la fête et qu'ils pensent à nous tous également pendant le reste de l'année. Ils prient pour nous et ils vous demandent de prier pour eux également. Très récemment, quelque chose s'est passé à New York et à Washington qui a secoué le monde. J'ai trouvé très intéressant que devant les Nations Unies, il se tient une statue qui a été donné comme cadeau par l'Union soviétique il y a des années en arrière. Et ce statut, ce qui est intéressant, c'est une statue tirée des pages de la Bible, et pourtant cette statue a été offerte aux Nations Unies par un pays athée. Mais ce qu'ils ont offert aux Nations Unies est une statue tirée de Ésaïe chapitre 2 et le verset 4. Vous n'avez pas besoin de vous y référer, je vais simplement vous lire, c'est un passage que vous connaissez bien. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Ce qui était intéressant récemment, c'est après les attaques du 11 septembre, dont nous sommes tous au courant, les Nations Unies, devant lesquelles se trouve cette statue, a dû annuler son Assemblée générale par crainte de ces attaques qui avaient eu lieu à New York. Il semblait que la guerre l'avait remportée sur le désir de la paix. Nous savons, frères et sœurs, que dans le monde à venir, c'est une des choses que nous anticipons lors de la fête des tabernacles. Nous savons que dans le monde à venir, il n'y aura plus de guerre. Et je crois que ce sujet prend un peu plus d'importance à nos yeux, vu les événements qui ont eu lieu récemment. Suite à cela, et en préparant pour cette fête, j'ai fait quelques recherches au sujet de la guerre dans l'histoire. Et une chose qui m'a frappé, c'est que à l'aide d'Internet aujourd'hui, on peut trouver des images, des informations sur toutes sortes de choses. Mais si vous vérifiez, si vous faites une recherche sur le mot « guerre », vous aurez littéralement des centaines de milliers, sinon des millions recherches possibles que vous pourriez poursuivre. C'est-à-dire qu'il y a autant de pages sur Internet pour parler de différentes guerres depuis les tout débuts de l'histoire. Ce que j'aimerais faire à titre d'introduction pour ce sermon aujourd'hui, c'est vous montrer quelques diapos. En fait, ce ne sont pas vraiment des diapos, on les appelle des diapos, ce sont des choses sur PowerPoint, c'est une présentation à l'ordinateur, pour entamer cette discussion ou cette étude aujourd'hui au sujet de la guerre. Si nous pouvons avoir les premiers diapos, s'il vous plaît. Normalement, je devrais avoir un titre, mais on ne l'a pas, alors j'ai mon assistant du jour qui va m'aider à faire avancer. Et si on peut également faire baisser les lumières, peut-être dans la salle, on laissera un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est « L'on n'apprendra plus la guerre ». En faisant des recherches sur Internet, vous pouvez remonter très loin dans le temps et trouver déjà des instances de guerre. Ici, nous avons par exemple 2700 ans avant Jésus-Christ, vous pouvez trouver déjà des récits de guerre sur des tableaux de ce genre. Ceci, c'est une guerre qui a eu lieu dans l'Ur, c'est-à-dire dans la région de Babylone. Diapo. Là, nous avons un stèle qui date de 2300 ans, qui raconte une guerre qu'il y a eu dans la Mésopotamie, non trop loin de la diapo précédente. Et là, vous voyez des hommes en train de vaincre une ville. Ensuite, l'Empire assyrien, un des premiers grands empires qui a réussi à vaincre presque tout le monde, je vais dire civilisé, bien qu'il y ait eu certainement des civilisations ailleurs également, mais le monde civilisé connu de l'époque. Entre 1500 et 612 avant Jésus-Christ, cet empire a subjugué tous les peuples aux alentours. Et ici, vous voyez un des rois guerriers. Ils ont toujours laissé des statues d'eux derrière, des monuments à toute leur conquête, le fait qu'ils ont vaincu d'autres par la guerre. Ensuite, s'il vous plaît. L'empire babylonien. J'aimerais vous demander de réfléchir un instant sur le fait que quand Dieu voulait décrire la suite de l'histoire humaine, à partir de Daniel, quel schéma a-t-il choisi pour décrire l'histoire, la suite de l'histoire des hommes? Eh bien, comme vous le savez, dans Daniel chapitre 7, il a expliqué qu'il y allait avoir quatre royaumes. Et à travers ces quatre royaumes, Dieu a expliqué à Daniel, depuis son époque à lui, jusqu'au retour de Jésus-Christ, comment allait se passer l'histoire des hommes. Et ce qu'il a choisi pour définir les différentes époques, c'était des empires. Des empires qui allaient vaincre, qui allaient faire la guerre aux autres. En fait, l'histoire de l'humanité est définie par la lutte armée et par la guerre. Ici, nous avons donc des murs de Babylone qui ont été fouillés. En 626, avant Jésus-Christ, Babylone détruit l'empire assyrien, non pas pour libérer les gens, mais pour prendre sa place. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dominé sur presque tout le sud-ouest de l'Asie pendant 70 ans. Ensuite, après, est venu le deuxième empire dont Dieu a parlé à Daniel dans Daniel chapitre 7, l'empire perse, qui a dominé une encore plus grande partie. Vous voyez au centre, la partie en jaune au milieu, c'était l'empire assyrien dans son noyau. Et maintenant, l'empire perse va encore plus loin. Il englobe l'empire assyrien et il étend ses frontières encore plus loin. Et du nouveau, la Perse domine le monde civilisé, entre guillemets, connu de l'époque, et cela pendant plus de 200 ans. Ensuite, l'Empire grec, le troisième empire mentionné en Daniel chapitre 7, était encore plus étendu. Alexandre le Grand est mort à un âge très jeune, mais à un moment donné, vous connaissez certainement l'anecdote, il s'est assis et il a pleuré parce qu'il n'y avait plus rien à vaincre dans le monde. Vers l'âge de 30 ou 32 ans, il s'est assis pour pleurer parce qu'il avait tout vaincu. Il n'y avait rien d'autre qui valait la peine de détruire et de prendre sous son pouvoir. Le troisième empire mentionné dans la Bible. Ensuite, le quatrième, comme vous le savez, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain est allé encore plus loin. La civilisation commençait à s'étendre tout doucement, et les empires également. Et l'Empire romain a dominé le monde entier et a même apporté le soi-disant civilisation romaine encore plus loin. Même, par exemple, ici, c'est une scène du film Gladiator où il se battait même dans les forêts germaniques. Ensuite, contre les tribus germaniques. Et en fait, le monde entier connu jusqu'en Angleterre, jusqu'aux portes de l'Écosse, l'Empire romain s'est étendu par la conquête et par la guerre. Ensuite, voilà l'étendue de l'Empire romain dans son plus grand, dans ses plus grands moments. De plus en plus grand, de plus en plus grand. Et nous savons que l'histoire biblique, les prophéties bibliques nous disent qu'il y aura une résurrection de nouveau de cet Empire romain et qui mettra main basse sur la maîtrise de toute la terre, en fait. Presque tous les gens de la terre seront unis sous la tutelle de la résurrection de l'Empire romain au moment du retour de Jésus-Christ. Ensuite, mais on n'en est pas là, on n'est pas obligé de rester là. La France, entre autres, a beaucoup souffert des guerres au Moyen-Âge, et toute l'Europe a souffert de ces guerres. Et j'aimerais préciser que, bien que je vais vous montrer quelques images de différentes guerres ici, c'est surtout centré sur les civilisations européennes, mais il y a eu en même temps des guerres en Amérique du Sud, des guerres en Asie, des guerres entre tribus en Australie, et ainsi de suite. Prochain. Les guerres napoléoniennes, quelque chose qui a tué des millions de Français, de soldats français et des Français de toute l'Europe. C'était assez catastrophique en fin de compte pour la France et les autres pays européens. Ensuite, la guerre civile américaine. C'était la première guerre où on commençait à faire des photographies de ce qui se passait sur des champs de bataille. La première guerre où nous avons toute une documentation par photographie de ce qui s'est passé sur ce champ de bataille. Ensuite, des morts après la bataille, je crois que c'était après la bataille de Gettysburg. Ensuite, la guerre des Boers, ou Boers, je crois qu'on dit, en Afrique du Sud, quand ils se défendaient contre les Anglais. Une guerre très meurtrière, une petite guerre, peut-être que nous ignorons même que ça a eu lieu, mais il y a eu des dizaines de milliers de morts au fin fond de l'Afrique, entre pays blancs. Ensuite, des soldats, des guérillas, le guérilla plutôt, de chez les Néerlandais, les Boers. Ensuite, la guerre 14-18, je ne sais pas si nos visiteurs américains auront l'occasion de au moins lire certaines choses à propos de ces événements et peut-être visiter certains de ces champs de bataille, surtout dans le nord de la France. Il suffit de dire que de cette guerre, il reste des vestiges encore en France. Il y a quelques années, quand on faisait des camps d'été pour les jeunes dans l'est de la France, en Alsace ou en Lorraine, on devait faire une assemblée spéciale au début du camp pour dire aux jeunes, attention, quand on se promène dans la forêt, si vous trouvez quelque chose de métallique, ne le touchez pas. Parce qu'il reste encore probablement des milliers d'obus non encore explosés de cette guerre. Et de temps en temps, il y a encore des morts aujourd'hui parce qu'on a marché sur quelque chose qui a explosé. Ensuite, village de Vaux en France, complètement détruit avec beaucoup d'autres villages dans ce coin. Imaginez quand on fait le cumul de combien de choses ont été détruites et combien de personnes ont été tuées et combien de destructions il y a eu. Quand on compte depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, imaginez le gaspillage en vies humaines et en biens que cela représente. Suivant. Cimetière français à Verdun. Et je recommande, s'il y a des visiteurs qui s'intéressent à l'histoire, Verdun, c'est un des endroits les plus solennels et les plus intéressants à visiter de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a pas mal de cimetières américains sur le sol français, comme le savent déjà les Français, les Européens ici, mais peut-être que les Américains ne le savent pas. Il y a de très grands cimetières américains depuis les guerres de 14 et les guerres de 39. Ensuite, la guerre 39-45, à peu près les mêmes pays impliqués et un nombre de morts estimé à 30 à 40 millions de personnes par la suite de cette seule guerre. Ensuite, les soldats américains à Okinawa, près du Japon également, car c'était vraiment une guerre mondiale. Ça se passait dans tous les coins de la planète. Ensuite, bombardement de Moscou. Ensuite, pont détruit en Cologne, en Allemagne. La destruction était énorme. La guerre n'a pas, disons, la paix n'a pas duré longtemps. La fin de la guerre en 45 et déjà en 50, nous avions une nouvelle guerre. Et de nouveau, des dizaines de milliers d'hommes allaient être tués ensuite. Avec de nouvelles armes, comme des lance-flammes, capables de brûler les personnes encore vivantes. Terrible, ensuite. Et c'est souvent des garçons. C'est des jeunes de 18, 19, 20 ans. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener dans un cimetière militaire, quelle que soit la nationalité, il y en a beaucoup en France. Et quand vous regardez l'année de naissance et l'année de la mort de l'individu, c'est presque toujours des garçons de 18, 20, 21, 22 ans. C'est des jeunes personnes. Je sais que quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'avais l'impression d'être adulte. Mais quand je regarde et quand je considère ces choses maintenant, je me rends compte qu'on est à peine adulte à cet âge-là. Et c'est dommage que ces vies ont été coupées court de cette manière. Ensuite, les soldats français pendant la guerre d'Indochine, également une guerre meurtrière, qui n'a pas fini avec l'implication française, car les États-Unis se sont impliqués par la suite. Diapo. Avec des armes encore plus perfectionnées. Ensuite, et tout récemment, il y a seulement 10 ans en arrière, on a eu une guerre où peut-être jusqu'à 100 000 ou plus personnes ont été tuées, soldats ont été tués dans cette guerre, dans l'espace de seulement quelques jours. C'est là où on en est arrivé de nos jours. Ensuite, plusieurs pays impliqués. Ensuite, et vous savez ce qui est intéressant aussi, si vous y réfléchissez bien, quand les hommes essaient d'imaginer l'avenir, ils imaginent quoi pour l'avenir de l'humanité? Ils imaginent la guerre. Quand vous regardez des films de science-fiction aujourd'hui, presque tout concerne un conflit qui va avoir lieu dans l'avenir. Ou les hommes se battent entre eux, ou les hommes se battent avec une autre espèce qu'ils vont retrouver dans l'espace. L'homme a du mal même à imaginer un avenir où il n'y a pas la guerre. Et vous savez que La guerre des étoiles, comme c'est dépeint ici, ce n'est qu'un film parmi beaucoup d'autres. On imagine dans l'avenir la guerre. Suite. Maintenant, ce que je veux vous montrer ici, c'est, ça va faire assez rapidement, chaque diapo passera pendant à peu près 4 secondes, mais ce sont quelques diapos des événements qui ont eu lieu récemment à Washington et à New York. Ces choses ont été très frappantes parce que c'est la première acte de guerre, si vous voulez, qui a vraiment touché le continent, la partie continentale des États-Unis depuis presque 150 ans. Même quand les États-Unis sont entrés dans la guerre avant, c'était toujours ailleurs. Non pas comme en France, il y a peut-être des personnes ici qui ont des souvenirs de quand la France était un champ de bataille pour une grande guerre européenne. Mais c'était une grande secousse pour les États-Unis parce que c'est la première fois de mémoire vivante que quelque chose comme ça s'est passé sur le sol américain. Alors, est-ce que c'est le début d'une nouvelle guerre? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, voici quelques images de ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ou 3 semaines maintenant. Les deux tours. Pentagone. OK, si nous pouvons avoir les lumières. Et on va fermer, on va rester comme ça pendant un moment. Je crois que nous avons tous eu à l'esprit, en venant à la fête cette année, des questions concernant ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui pourra encore se passer. L'administration de George Bush à Washington a déclaré une guerre contre le terrorisme. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une guerre dans le sens normal du mot, dans le sens classique, bien que nous ne savons pas ce qui va en venir et peut-être qu'il y aura une vraie guerre après tout cela. Mais comme nous avons déjà vu, la guerre, c'est un état d'affaires constant depuis que les hommes et les femmes sont sur la terre. Vous savez comme moi que le premier enfant qui est né sur la terre est devenu un meurtrier en tuant son propre frère. Et les hommes continuent à faire cela, à se battre entre eux depuis ce moment-là. D'après une source que j'ai consultée, dans les 50 dernières années, plus de gens ont été tués dans les guerres que dans les 800 ans précédents. Et peut-être c'est encore plus maintenant. Nous avons vu un autre horreur, nous venons de le voir, ce qu'un simple poignet de gens sont capables de faire de nos jours avec la technologie, s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et nous savons aussi, frères et sœurs, que les choses doivent s'améliorer, doivent s'empirer plutôt, avant de pouvoir s'améliorer. Car le temps juste avant le retour de Jésus-Christ verra des guerres comme on ne l'aura jamais vu auparavant. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 avec moi, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car, verset 2 de 1 Thessaloniciens 5, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et parfois on se pose la question, mais comment est-ce que cela pourrait arriver, des choses arriver subitement comme cela? Eh bien, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est dans le même contexte que le retour de Jésus-Christ. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Je crois que nous sommes mieux comprendre certains de ces passages maintenant à la lumière des événements récents, parce que la Bible prédit qu'il y en aura d'autres comme cela aussi. Ça peut arriver tout d'un coup, et ce passage et d'autres disent que ce sera comme ça au temps de la fin, les gens seront surpris de voir la vitesse à laquelle arrivent les événements. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 38. Ce sont dans les paroles de Jésus-Christ suite à ce que ses disciples lui avaient demandé comme question. Quels sont les signes de ton avènement? Comment est-ce qu'on saura que le moment est proche? Verset 38 de Matthieu 24. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et je voulais lire ces passages, frères et sœurs, parce que je trouve que ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 semaines maintenant devrait nous servir de leçon et d'avertissement, que des choses peuvent arriver subitement. Nous ne pouvons pas prévoir et prédire dans tous les détails ce qui va arriver. Et il nous incombe de veiller sur nous-mêmes, et de ne pas nous laisser aller à croire que peut-être nous avons le temps de voir tout cela après. Mais nous ne voulons pas rester là avec de mauvaises nouvelles. Et pour vous tous, j'ai presque envie de m'excuser de vous avoir montré ces images de nouveau, parce que je suppose que nous avons presque tous eu assez de les voir maintenant, puisqu'ils ont été répétés tant de fois à la télé. Mais j'ai cru qu'il était utile de mettre tout ceci dans le contexte de la Bible et des prophéties pour l'avenir. Parce qu'en fait, ce que je vais vous donner aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Moi, je veux vous rappeler de bonnes nouvelles que la Bible nous donne à propos de la guerre, car un jour, il n'y aura plus de guerre. Et je crois pour ma part que nous sommes plus près de l'accomplissement de cette prophétie encourageante que nous n'étions il n'y a pas si longtemps que cela. La bonne nouvelle est que quand le royaume de Dieu sera établi, il n'y aura plus de guerre ni de préparation pour la guerre. L'attentat qu'il y a eu dans l'est des États-Unis apparemment était en préparation depuis des années. Ces hommes se préparaient, ils se formaient pour pouvoir faire ce qu'ils allaient faire. Tout comme maintenant, dans presque tous les pays du monde, il y a des soldats qui se préparent pour une guerre éventuelle à venir. Et il se peut qu'il y ait déjà des soldats en Afghanistan maintenant en train de mettre en place le nécessaire pour une guerre éventuelle qui viendrait. Mais rappelons-nous de certaines choses que la Bible dit à propos de la guerre. Michée chapitre 4 et le verset 3. Mais prenons verset 1 pour nous mettre dans le contexte. Car le contexte ici, c'est après le retour de Jésus-Christ. C'est le millénium, le règne de Jésus-Christ sur la terre. Michée chapitre 4 et le verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. » Aujourd'hui, il n'y a pas d'arbitre entre des nations. Les Nations Unies essaient de le faire, mais n'arrivent pas, parce que les hommes n'arrivent pas à être l'arbitre des hommes. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce sont ces versets qui ont inspiré le statut devant les Nations Unies. Et malheureusement, on a bien voulu mettre le statut, mais ça n'a rien changé. La guerre continue comme elle a toujours continué. D'où vient la guerre, frères et sœurs, les guerres à travers l'histoire? Quelle en est la cause? Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques chapitre 4 et le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Maintenant, dans la plupart des versions anglaises de la Bible, le mot « lutte » là est traduit par « guerre », et c'est ainsi dans la version Darby en français également. D'où viennent les guerres? Parce que, en fait, c'est ça que ça veut dire. Le mot veut dire « guerre ». D'où viennent les guerres et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ou alors, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi est-ce que les guerres commencent? Pourquoi l'attentat contre le World Trade Center? En réalité, quoi qu'on puisse dire, il ne s'agit pas de vastes choses compliquées et techniques au-delà de notre compréhension. Il s'agit de passion, il s'agit de mauvaises attitudes, il s'agit de mauvais désirs qui viennent de la nature humaine. Et les hommes n'arrivent pas à arrêter la guerre parce que les hommes n'arrivent pas à changer le cœur humain. On ne peut modifier la nature humaine et ainsi la guerre continue. Jérémie chapitre 17 et le verset 9. Jérémie chapitre 17 et le verset 9. C'est un passage que je devais apprendre par cœur quand j'étais à la base de collège. Il ne m'a jamais quitté. C'est tout à fait vrai. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Les hommes ne sont pas bons au fond. Nous avons un peu de bien, peut-être, avec le mal qui est là. Mais nous ne sommes pas, les êtres humains ne sont pas bon, automatiquement. Au contraire, nous avons tous la nature humaine. Jésus-Christ a parlé de ces choses dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 10. Les problèmes ne sont pas des problèmes extérieurs avant. Ça finit par être des problèmes extérieurs. Mais le début des problèmes des hommes, c'est des problèmes intérieurs. C'est ce qui se passe dans le cœur qui crée des difficultés extérieures par la suite. Matthieu chapitre 15, verset 10. « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce que souille l'homme. » Alors là, c'était difficile pour les disciples de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Mais explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce que souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Les hommes et les femmes s'affairent de ce qu'ils peuvent voir à l'extérieur. Nous voulons monter des missions de paix, nous voulons essayer de trouver des terrains d'entente, etc. Quand en réalité, le nœud du problème, c'est le cœur de l'homme. Et c'est une leçon qui ne sera pas facile à prendre pour certains gens, parce que la guerre est un résultat de la nature humaine. Le désir, comme disait M. Armstrong, de prendre plutôt que de donner. Parfois, on pense de nos jours que tout le monde veut la paix, que si seulement on peut trouver les mots magiques, on arriverait à faire la paix entre tous. Et je dirais d'une certaine manière, c'est vrai que tout le monde veut la paix. Je crois qu'il y a peu de gens qui veulent vraiment la guerre et rien que la guerre. Mais le problème, c'est que chacun veut la paix de sa façon, à sa manière. Moi, je veux ma paix à moi et je n'accepte pas d'autres paix. Si je ne reçois pas ce que je veux, on continue la guerre. Récemment, j'ai lu un livre que j'ai trouvé très intéressant et j'en ai sorti une citation que je vais vous lire dans un instant. J'aimerais vous dire un mot à propos du livre pour vous expliquer le contexte tout d'abord. C'est un livre que j'ai ici, Black Hawk Down. C'est l'histoire des troupes américaines en Somalie, il y a quelques années en arrière, au sein d'une mission des casques bleus, des gardiens de la paix de l'ONU. Ce livre raconte une mission militaire américaine en Somalie où, pour essayer de mettre fin à la famine qui régnait dans ce pays et pour rétablir une structure là où il n'y en avait plus depuis des années, les Nations Unies ont essayé d'imposer une ordre dans le chaos. Le chef de guerre, Aidid, n'a pas coopéré et a même fait tuer plus d'une trentaine de casques bleus qui étaient là pour assurer la distribution de nourriture aux affamés parce que Le chef de guerre Haïdite voulait que la nourriture vienne chez lui et pas qu'il aille dans d'autres clans. L'ONU a donc décidé de commencer à mettre la pression sur le clan d'Haïdite et il commençait à arrêter ses lieutenants. Le 3 octobre 1993, une mission a été montée par les forces américaines pour arrêter deux de ses lieutenants. Et la mission s'est trouvée en grave difficulté. Beaucoup de choses n'ont pas été comme ils auraient dû être, et c'est ce que raconte ce livre. Et en fin de compte, 18 soldats américains ont été tués pendant cette bataille. 70 ont été grièvement blessés, et il s'en valait de peu que beaucoup plus que cela ne soient tués et blessés. Deux hélicoptères ont été abattus, et ainsi de suite. On estime en face qu'entre 500 et 1000 Somalis ont été tués pendant ce combat. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement toute cette histoire-là. Quoique le livre est fort bien écrit, et si cela vous intéresse, je peux vous le conseiller. C'est une très bonne explication et illustration de ce que la guerre est aujourd'hui et ce qu'il sera dans les années à venir. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce livre, c'est une leçon qui a été expliquée par un membre du département d'État américain. Cela explique un peu parfois la naïveté des Américains et aussi l'état réel dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Quelle leçon a-t-on appris? Voilà ce que dit ce membre du département d'État qui souhaitait rester anonyme parce que ce qu'il a dit allait à l'encontre de la politique générale du pays. Il a dit à la page 410, « L'idée avait été que les pays terribles étaient terribles parce que des gens bons, décents et innocents étaient opprimés par des chefs abrutis et méchants. L'expérience en Somalie a changé cela. Là, on a un pays où presque tout le monde est impliqué dans la haine et dans les combats. Si vous croisez une vieille dame dans la rue pour lui demander si elle veut la paix, elle répondra que oui, bien sûr, je prie pour cela tous les jours. Toutes les choses que vous vous attendrez d'entendre de sa part, elles les diront. Ensuite, demandez-lui si elle serait d'accord pour que son clan partage le pouvoir avec un autre clan pour avoir cette paix. Et elle dira avec ses meurtriers et ses voleurs, plutôt mourir. Les gens de ce pays, de ces pays plutôt, la Bosnie en est un exemple plus récent, ne veulent pas la paix. Ils veulent la victoire. Ils veulent le pouvoir. Hommes, femmes, vieux et jeunes, la Somalie était l'expérience qui nous a enseigné que les gens dans ces coins portent une grande part de la responsabilité pour l'état des choses. La haine et la tuerie continuent parce qu'ils veulent que cela continue, ou alors parce qu'ils ne veulent pas la paix suffisamment pour l'arrêter. C'est très intéressant parce que cette citation nous dit que le problème c'est dans le cœur des gens. Ce n'est pas des solutions extérieures qui manquent. C'est que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il veut ce qu'il veut. Et en fin de compte, il est rarement disposé à faire le nécessaire pour avoir la paix. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une paix durable sur la terre? Parce que la nature humaine est toujours la même. Cette nature ne change pas. Mais comme j'ai dit, il y a de bonnes nouvelles. Parce que Jésus-Christ va revenir sur la terre. Et la Bible nous dit dans plusieurs endroits qu'il va revenir comme prince de la paix. Ésaïe 9 et Hébreux 7, entre autres endroits, nous disent que là, ce sera un de ses titres. Mais pourquoi est-ce qu'il pourra apporter la paix? Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi est-ce que le fait que le Christ reviendra apportera finalement la paix? Psaume 72. Nous savons, je crois que nous pensons parfois, que le Christ va imposer une paix de l'extérieur. Si vous faites la guerre, je vous aplatis. Et je crois qu'au début du millénium, ce sera certainement ça. Vous n'avez plus le droit. On va vous arrêter si vous essayez de le faire. Mais ce n'est pas ça qui va apporter la paix durable. Ça apportera la paix immédiate peut-être. Mais finalement, ce qui va apporter la paix, c'est un changement que Dieu va effectuer dans le cœur des hommes. Psaume 72, verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. C'est la justice, voyez-vous, qui apporte la paix. Verset 7. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Pourquoi? Parce qu'il y aura la justice. Maintenant, où est-ce que cette justice doit être? Eh bien, la justice doit être dans le monde entier, la connaissance de l'Éternel. Et une des prophéties les plus frappantes du millénium et du monde à venir se trouve dans Ésaïe chapitre 11. Relisons ceci, c'est peut-être un des passages les plus lus dans tout le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, verset 9. Ésaïe chapitre 11, verset 9. En ce jour, verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La justice vient de la connaissance de l'Éternel. Et au retour de Jésus-Christ, cette connaissance sera étendue sur toute la terre, comme cela n'a jamais eu lieu avant. Mais plus que cela, il ne s'agira pas simplement d'une connaissance extérieure. Il s'agira d'une connaissance et une compréhension qui va aller au plus profond de nous-mêmes. Ce sera une chose intérieure pour les hommes et les femmes sur la terre. Vous savez, pour nous aujourd'hui, la loi, c'est souvent quelque chose de compliqué et difficile à comprendre. Quand nous voulons comprendre une certaine loi, nous devons parfois aller voir un avocat. Mais j'ai le texte, expliquez-moi, cherchez tout ce que cela peut dire, l'application de cette loi. Et des avocats sont souvent des gens très riches et très occupés, parce que la loi étant ce qu'elle est, il faut des spécialistes pour comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire selon les lois de nos pays. Parce que la loi, c'est quelque chose d'extérieur. Mais quand Jésus-Christ reviendra, et quand Dieu donnera son Saint-Esprit, rendra cet Esprit disponible au monde entier, nous aurons sa loi écrite à l'intérieur. Nous comprenons maintenant, mais les hommes en général comprendront la signification de la loi de Dieu. Ils n'auront pas besoin d'aller voir un avocat pour dire « Expliquez-moi quel commandement je dois appliquer ici. » Ils comprendront les principes de la loi de Dieu, puisque Dieu va l'écrire dans leur cœur. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31, est un passage qui parle de la nouvelle alliance que Dieu établira avec Israël lors du retour de Jésus-Christ sur la terre. Et nous savons que ce ne sera pas uniquement avec le peuple physique d'Israël, mais que tous les gens sur la terre auront accès à Dieu, auront accès à son Saint-Esprit, à son appel pendant cette époque millénaire. Jérémie, chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ce ne sera plus la haine et la soif du victoire uniquement, victoire ou la mort. Ce sera la loi de Dieu, la loi d'amour, du partage, le désir d'aider les autres plutôt que les dominer. Et là, frères et sœurs, il y aura la paix. Vraiment la paix. Pas une absence de guerre comme ce que nous avons parfois aujourd'hui, mais la vraie paix, puisque ce sera une paix qui percera jusqu'au plus profond du cœur humain. C'est cette alliance, et une partie de cette alliance, c'est que Dieu mettra son esprit dans les hommes et dans les femmes, dans leur cœur, dans leurs esprits. Et c'est cela qui va apporter la paix. Ce ne sera pas une force extérieure uniquement qui dira « je vous interdis de le faire ». Ce sera un changement qui viendra de l'intérieur. Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Verset 10. C'est intéressant ici que l'alliance de l'Éternel, et il est question ici de la nouvelle alliance qui va venir. L'alliance est appelée une alliance de paix. Puisque la nouvelle alliance, quand Dieu mettra son esprit dans les gens, c'est ça qui va apporter la paix. Un des fruits de cette alliance sera automatiquement la paix, puisque l'Esprit de Dieu travaillera dans le cœur et dans les esprits des hommes et des femmes. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ce que Dieu établira, c'est une alliance de paix, puisque le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans les êtres humains. Maintenant, j'aimerais vous inviter à revenir dans Ésaïe chapitre 11. J'aimerais vous demander de réfléchir sur un autre aspect. On va revenir à certaines choses que nous avions dit avant. Ésaïe chapitre 11. Un des passages, et je crois que c'est probablement pour moi qui ai grandi dans l'Église, je vois des enfants par terre ici, c'est comme ça que j'étais quand j'étais garçon. Parmi mes premiers souvenirs sont des lumières sur le plafond de notre salle d'assemblée quand j'étais garçon, parce que j'étais couché là sur le dos, sur ma couverture, et j'ai compté, enfin j'ai pas compté, je ne savais pas, j'avais 2 ans ou 1 an, mais je me souviens encore très bien des lumières sur le plafond de notre salle d'assemblée. Mais je crois que lorsqu'il était la fête des tabernacles, évidemment pour les enfants, ce qui les marquait le plus pour la fête, c'était d'être ensemble, bien manger, toutes les activités agréables qu'on pouvait avoir. Mais pour moi, c'était aussi le fait d'imaginer qu'un jour, je pourrais caresser un lion. Ça marque beaucoup les enfants qui aiment les animaux. Je sais que mes 2 filles aiment beaucoup les animaux. Et de penser qu'on pourrait caresser un lion ou toucher un léopard. Ou avoir non pas un nounours, mais un ours comme animal domestique. Et on parlait de ces choses et on était content d'imaginer tout cela, des choses qui pouvaient venir. Et il est vrai que dans Ésaïe chapitre 11, nous avons l'explication que la nature des animaux va changer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que presque tous les commentateurs sont d'accord pour dire que dans le langage prophétique et imagé de la Bible, les animaux souvent représentent des royaumes ou des nations, le comportement des nations. Rappelez-vous dans Daniel 7, quand Dieu voulait décrire des empires, il les a décrits comment? Mais un était comme un lion, l'autre comme un ours, l'autre comme un léopard, et l'autre encore plus terrible que les autres, n'est-ce pas, pour décrire la suite de l'histoire humaine. Eh bien, en lisant ceci maintenant, j'aimerais suggérer qu'il est probablement question non pas uniquement de la nature des animaux physiques, mais aussi de la nature et le comportement des nations. Parce qu'il y a sur la terre aujourd'hui des nations qui se comportent plutôt en lion. Il y en a d'autres qui sont très paisibles. C'est comme les familles, certaines qualités, certaines capacités semblent être concentrées dans certaines familles. Et dans certaines nations, il en est de même. Regardons Ésaïe chapitre 11. Et le verset 4, Ésaïe chapitre 11, verset 4. Il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Rappelez-vous que nous devons devenir comme des petits enfants. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 13. Nous devons devenir comme des petits enfants. Et en effet, au retour de Jésus-Christ, c'est nous, les petits-enfants, qui vont diriger ces grandes nations pour les amener à Dieu, pour qu'ils puissent comprendre le comportement qu'ils devraient tenir. Les ours auront un même pâturage, verset 7. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quand on considère que le verset 9 suit ces autres versets, il est question de la connaissance de l'Éternel, qu'il n'y aura pas de violence sur la terre. Ce n'est pas aller trop loin que de penser que, en plus d'un accomplissement premier pour les vrais animaux, qu'il y ait un autre accomplissement, que la nature des nations vont également changer. Parfois, nous avons l'occasion aujourd'hui de voir la nature de certains animaux qui changent un peu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller dans un cirque et de voir le dompteur de lion, par exemple. C'est impressionnant. Quelqu'un a invité ma famille et moi d'aller voir un des grands cirques aux États-Unis où ils ont des tigres de Bengale. C'est le plus grand des tigres. Ces animaux sont énormes. J'avais déjà vu des lions en Afrique, mais ces tigres-là sont bien plus grands. C'est étonnant. En fait, les tigres sont plus grands que des lions. J'ignorais cela pendant un moment. Mais ces tigres, leurs épaules, ils sont comme ça. C'est énorme, ces animaux. Et de voir quelqu'un là, avec son fouet, en train de diriger 6 ou 8 de ces animaux en même temps, c'est étonnant. Parce qu'on reconnaît la force qu'ils ont. Et, disons, on reconnaît aussi le courage de ceux qui sont disposés à entrer dans un cage avec ces personnes. Mais récemment, j'ai eu une expérience lors d'un camp en Afrique du Sud pour des jeunes de l'Église qui m'avait beaucoup frappé. Parce que là, pendant ce camp, qui était un camp où les jeunes apprenaient davantage sur la nature, sur l'écosystème, et évidemment, nous avions des études bibliques pour des jeunes, mais on avait l'occasion de visiter un endroit pour des rhinocéros orphelins. C'était un sanctuaire pour des rhinocéros dont les mères avaient été tuées et qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Et certains de ces animaux ont grandi, donc en captivité. Et j'aimerais vous montrer quelques diapos parce que je trouve que c'est une belle image sur laquelle on peut réfléchir pour l'avenir. Parce que bien que nous voyons autour de nous la guerre et des bruits de guerre, et bien que nous voyons maintenant la nature de l'homme qui est tout assoiffé de sang, quand nous regardons le plan international, le moment viendra quand la nature des animaux changera et la nature des hommes et des nations également, parce que Dieu mettra son Saint-Esprit en eux. Si on peut fermer les lumières une dernière fois et puis mettre quelques diapos, ça va venir dans juste un instant. Avant de vous montrer ces diapos, pendant qu'il prépare tout cela, le rhinocéros sauvage est un animal très dangereux. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez lu de ces choses. Ils ne voient pas bien, et pour se défendre, donc, s'ils aperçoivent quoi que ce soit qui ne devrait pas être là, ils foncent. Ils foncent. Et j'ignorais, avant de les voir tout près, parce que c'est un animal qui est maintenant rare, à quel point il peut être grand. Leur épaule, l'épaule du rhinocéros, normalement, un rhinocéros adulte, la taille de l'épaule est entre 1,5 m et 1,85 m. C'est-à-dire que son épaule, c'est à peu près ma taille à moi. Ils sont grands comme ça à l'épaule. Et j'ai eu la possibilité de l'expérimenter. Ils sont en longueur entre 3,35 m et 4,20 m de long. C'est dire que c'est une grosse bête. C'est le plus grand animal sur Terre, sauf l'éléphant. Juste après l'éléphant vient le rhinocéros. Et c'est un animal qui est très agressif. Mais on a vu un rhinocéros ici, en fait on en a vu deux. Un qui avait pris un peu l'habitude des êtres humains et on pouvait même le toucher et lui donner à manger. Si on peut avancer le diapo. Ensuite. Voilà. Ça c'est le rhinocéros qu'on a pu voir tout près. Il avait changé de nature, cet rhinocéros. Comment est-ce que je sais cela? Parce que vous voyez la grosse corne qu'il a devant. Il n'y a pas si longtemps, quelques années en arrière, il a complètement transpercé la cuisse de quelqu'un qui s'occupait de lui. Donc, il ne fallait pas s'approcher s'il ne voulait pas. Et je peux vous garantir que quand nous étions tout près, on a fait très attention d'être très poli avec lui. Mais voilà, il s'appelait Buana. Alors, diapo suivant. Ça, c'est sa tête. Maintenant, vous allez remarquer sa lèvre supérieure, c'est une lèvre préhensile, et sa descente est presque comme un doigt. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que lui, il s'est tellement adouci avec le temps que vous pouvez lui donner à manger dans la main maintenant. Il ouvre la bouche, vous verrez ça dans un instant. Vous mettez la nourriture sur la main, vous le placez dans sa bouche sur la lèvre inférieure, et avec sa lèvre supérieure, il prend la nourriture comme ça dans sa bouche. Diapo. Alors au début, il ne voulait pas trop venir, comme vous voyez. Et vous voyez la taille de cet animal. Ça pèse, c'est puissant comme tout. Diapo. Mais il est venu. Regardez la grosseur de cette bête. Ça faisait peur d'être à côté au début. Ensuite, et là, les enfants sont en train de lui donner à manger. Pour moi, c'était une scène du millénium, parce que cet énorme animal que normalement on ne doit pas s'approcher du tout. D'ailleurs, pendant le camp, je vous raconte ça, une des choses qu'ils nous ont expliqué, parce qu'il y a des rhinocéros sauvages qui habitent dans les barrages aussi, et ils nous ont expliqué comment marcher là où il y a des rhinocéros. Et quand on marche dans la brousse, ils nous ont expliqué, vous devez toujours avoir choisi dans la tête, devant vous, à moins de 10 mètres de vous, un arbre. Si quelqu'un crie « rhinocéros », vous courez, vous grimpez dans cet arbre. Il a dit, ne changez pas d'avis en y allant, en disant peut-être que je devrais aller dans un autre arbre. Vous y allez et vous ne regardez pas en arrière. Alors, quand il a expliqué tout ça, les adolescents sont devenus tout calmes et tranquilles. Ils commençaient à regarder autour. Et c'était silencieux quand on marchait quelque part. Et on voyait dans leurs yeux qu'ils étaient toujours en train de chercher des arbres. Ça c'est mon arbre maintenant. Quand on arrive à l'arbre, maintenant ça c'est mon arbre. Mais celui-là, disons, après toute cette expérience-là, quand on a pu être là et toucher cet animal et lui donner à manger, ça nous donnait vraiment, honnêtement, ça me donnait des frissons. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, vous imaginez un animal si puissant qui a changé de nature à tel point qu'il peut être caressé et nourri à la main par des petits enfants. Eh bien, frères et sœurs, je trouve que c'est une image formidable de ce qui va venir dans l'avenir. Non seulement des animaux comme ça, comme des lions et des ours et des rhinocéros, mais des nations vont changer de nature aussi. Ensuite, je crois que illustration de cela, et avec ça nous allons couper les diapos, remettre les lumières, et j'aimerais juste vous lire un passage ou deux avant de terminer. Ceci doit nous donner un grand espoir, parce que déjà nous avons des petits avant-goûts de temps en temps de choses qui peuvent venir. Et ça, ce sera étendu à toute la terre au moment du retour de Jésus-Christ. Mais entre-temps, frères et sœurs, parce que nous vivons encore ce monde d'aujourd'hui, et nous savons des choses qui vont encore venir. Mais entre-temps, puisque nous allons aider Jésus-Christ à étendre la paix sur toute la terre, nous, vous et moi, nous devons être en train maintenant d'apprendre à procurer la paix à notre niveau. Matthieu chapitre 5 et le verset 9, mais je ne vais pas m'y référer. Vous connaissez ce qui est marqué là. Heureux ceux qui procurent la paix. Alors je crois qu'il est important pour nous, de temps en temps, régulièrement même, de nous poser la question, est-ce que moi je procure la paix? Procurer la paix n'est pas la même chose que de ne pas troubler la paix. Ne pas troubler la paix, si la paix existe, c'est bien. Mais nous devons faire plus. Nous devons faire ce que nous pouvons pour procurer la paix là où elle n'existe pas déjà, dans notre entourage et autour de nous. En permettant à Dieu d'écrire sa loi dans nos cœurs, nous commençons la première étape pour procurer la paix. Parce que, frères et sœurs, vous et moi, nous vivons déjà sous les conditions spirituelles de la nouvelle alliance. Cette alliance n'est pas établie encore avec Israël. Cet accomplissement final de la nouvelle alliance viendra après le retour de Jésus-Christ. Mais nous vivons déjà sous les conditions spirituelles de la nouvelle alliance. Et nous devons vivre et agir en conséquence. Nous devons déjà vivre comme ambassadeurs pour la paix. Laissez Dieu nous guider par son Saint-Esprit. Cherchez à être en paix avec tout le monde, pour autant que cela dépend de nous. Et nous savons que parfois ça ne dépend pas de nous, mais nous devons chercher à faire la paix entre autres aussi, dans la mesure du possible. Pour terminer, lisons Ésaïe chapitre 9, un autre passage qui est très encourageant pour nous, et qui nous donne un dernier détail qui nous laisse à réfléchir pour l'avenir. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Verset 5 plutôt. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'était prophétique de la naissance de Jésus-Christ la première fois, mais il y a des prophéties ici pour sa deuxième venue également. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est le Prince de la paix, parce qu'il apportera avec lui la possibilité de mettre le Saint-Esprit de Dieu dans le cœur de tous les hommes. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, nous avons tous été affectés et attristés par ce qui s'est passé. Nous savons que les prophéties prédisent qu'il y en aura d'autres événements comme cela. Mais nous devons toujours garder dans nos cœurs la confiance et la connaissance qu'une époque de paix éternelle va venir. Nous sommes en train de nous préparer avec l'aide de Dieu maintenant pour participer à l'application de cette paix au monde entier. Ceux qui sont à Christ seront là à son retour et ils aideront à établir cette paix éternelle. Nous voulons être là, n'est-ce pas? Alors, travaillons à la paix et gardons notre confiance dans la paix qui va venir.